Et moi aussi, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de cette conférence pour ma bonne amitié. L'article que je soumis et qui fera la base de ma présentation est en réalité une partie d'un projet plus ample que j'ai développé d'abord comme base pour une candidature au CNRS, mais qui depuis a évolué, j'espère pouvoir en faire un livre, un deuxième livre. Et le sujet de ce projet, le thème est une tentative de développer un cadre théorique pour saisir la façon dont l'Union européenne, en tant que système institutionnel, contribue à structurer les rapports entre politique et religion sur son territoire. C'est-à-dire, en d'autres mots, ce que j'essaie de faire, c'est de saisir les modèles spécifiques de laïcité qui est institutionnalisé au niveau européen. Et la thèse ou l'hypothèse que je vise à mettre à l'épreuve consiste à dire que malgré le fait que l'Union européenne soit souvent considérée comme un berceau pour la protection des principes de laïcité et de sécularisme, en réalité, une catégorie conceptuelle plus adéquate pour saisir la façon dont l'Union européenne structure les rapports entre politique et religion sur son territoire est offerte par la notion de démocratie chrétienne. Donc l'Union européenne serait une incarnation des principes de la démocratie chrétienne conçue comme idéologie spécifique des partis qui en ont fait leur identité politique. Alors je vous dirais que ce thème a très peu à voir avec le sujet de cette journée d'études, ce qui est vrai. Mais quand j'en ai parlé avec les organisateurs, ils m'ont suggéré peut-être de pouvoir réfléchir aux dimensions méthodologiques de ton projet comme exemple spécifique d'une tentative de articuler la théorie politique avec une perspective plus empirique. Et donc c'est ce que je vais faire dans cette présentation, réfléchir sur la méthodologie de mon projet en deux parties. Dans la première partie, je vais essayer de prendre un peu de recul par rapport à mon propre projet et réfléchir abstraitement sur quels sont certains des problèmes méthodologiques que j'ai confrontés et comment j'ai essayé d'y faire face. Mais dans la deuxième partie, puisque comme quelqu'un, je crois, il a fait référence avant, comme dit Hegel dans la philosophie, dans la préface de la phénoménologie, réfléchir à la méthode de façon abstraite, c'est un peu comme essayer d'apprendre à nager sans rentrer dans l'eau. Dans la deuxième partie, je vais rentrer dans le contenu de mon étude, et c'est peut-être là que certains des problèmes méthodologiques vont ressortir plus clairement. Oui, des problèmes et choix, et décisions méthodologiques. Pour aborder la dimension méthodologique abstraite, j'ai décidé de commencer par candidement avouer quel était le problème méthodologique principal auquel j'ai été confronté quand, depuis les États-Unis, je suis revenu en France avec l'intention d'essayer de m'installer ici en tant que politiste. Et moi, je viens d'une formation, j'ai fait ma thèse aux États-Unis, une formation en théorie politique anglo-saxonne, pas nécessairement analytique, mais en tout cas normative. Assez vite, quand je suis revenu en France, j'ai compris que ça, on m'a dit, tu trouveras jamais un poste comme ça. Moi, j'avais fait ma thèse sur le rapport entre le relativisme et la démocratie. On m'a dit, non, ça, c'est pas de la science politique, parce qu'il n'y a pas de terrain. Le mot terrain est difficile à traduire en anglais, selon moi. En tout cas, ça ne veut pas dire la même chose de field. Et donc, au début, j'ai essayé de comprendre ce qu'est un terrain. Je crois m'être fait une idée de ce qu'est un terrain comme une partie de la réalité empiriquement identifiable qui constitue l'objet de ton étude. Le problème méthodologique concret auquel j'étais confronté quand je suis venu en France était de comment utiliser les outils que j'avais appris en tant que théoricien du politique aux États-Unis pour essayer d'étudier un terrain. Comment faire ce lien entre la théorie politique et un terrain, qui est un peu une façon. Ça se relie au thème de ce colloque. En me renseignant un peu avec les autres collègues, dont Marie-Hélène et plusieurs que j'ai connus ici en France, il m'a semblé que la stratégie dominante de ceux qui veulent essayer de faire de la théorie politique en France, trouver un poste. Consiste en gros, à dire qu'elle s'appuie sur le présupposé qu'en fait, les idées sont des choses. Et donc, on peut avoir un terrain qui est constitué par des idées. Donc, ça, c'est une stratégie. Mais c'est tout à fait... Je ne veux pas du tout critiquer ça. Je veux dire que mon terrain est constitué par une série d'idées, et c'est ce terrain que je vais étudier. Les idées sont une partie de la réalité politique, comme le vote, comme tout ça. Et donc, ça... ouvre trois voies possibles à la théorie politique avec un terrain. C'est l'analyse du discours, donc essayer de voir quels sont les rapports logiques entre les façons dont les personnes parlent, les acteurs politiques parlent. La sociologie des idées, ça c'est très dommage, aux États-Unis il n'y a presque pas ça. La sociologie, donc voir qui dit quoi, pourquoi il dit ça. Et la troisième, c'est bien sûr l'histoire des idées. Ça, c'est les trois voies. Et comme j'ai dit, ça, c'est trois voies tout à fait légitimes, intéressantes, qui peuvent même nous nourrir la théorie politique anglo-saxonne. Moi, dans ce projet de recherche, j'ai essayé de poursuivre une autre voie différente, d'expérimenter avec une autre voie qui n'est pas originale, mais que c'est cette méthodologie que je veux soumettre à la discussion, parce que c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. J'aimerais avoir un peu de retour sur ça. Elle part du présupposé opposé. Pas que les idées sont des choses, mais en fait que notre perception des choses est toujours médiée par notre compréhension idéale du monde. Et donc, l'idée serait de voir qu'une façon de faire de la science politique avec un terrain serait de voir quels sont les présupposés intellectuels qui organisent ou régissent notre perception du monde. Et donc, le travail de la théorie politique, là, serait de produire des concepts qui nous permettent de mieux comprendre certaines réalités empiriques définies des terrains. Bien sûr, les points de référence implicites avec cette ontologie, c'est rien d'original, c'est Max Weber, tout le néo-kantisme qui débouche sur Weber, c'est la méthodologie des idéotypes. C'est-à-dire l'idée que le rôle, je ne sais pas quel mot utiliser, de celui qui veut étudier la politique, serait de produire, de développer des concepts intellectuels qui nous permettent de mieux saisir certains aspects. Donc, la contribution de la théorie politique dans cela serait de fournir des catégories conceptuelles pour donner une grille de lecture à la réalité. Max Weber, par exemple, quand il développe un idéotype, par exemple celui d'éthique protestante, il puise dans la théorie politique, il lit Calvin, il lit surtout Benjamin Franklin. Donc ça, c'est le rôle de la théorie politique. Elle peut nous donner, elle peut être comme un réservoir d'idées, de concepts qu'on peut utiliser pour développer des grilles de lecture pour comprendre en réalité empirique. Juste une dernière précision à niveau abstrait avant que je passe à parler du contenu de la chose. La méthode des idéotypes est nécessairement comparative. Ça c'est implicite dans les écrits méthodologiques de Weber, mais c'est explicite dans la façon dont on l'utilise. C'est-à-dire que si on utilise seulement une grille de lecture, on la trouvera toujours. Si l'idéotype c'est des lunettes, si je mets des lunettes roses, je trouverai toujours que le monde est rose. Donc pour voir quel est le meilleur idéotype pour saisir une réalité donnée, il faut comparer de plusieurs idéotypes et voir quel permet de mieux saisir la réalité. Donc ça c'est un niveau abstrait, selon moi ça c'est assez... Je dis rien d'original. Maintenant, comment j'ai essayé d'appliquer cette méthodologie des idiotypes à mon projet, qui consiste à essayer de comprendre comment l'Union européenne structure le rapport entre politique et religion sur son territoire. Alors là, ce que je propose de faire, c'est de comparer le pouvoir explicatif de trois idéotypes par rapport à la réalité, au terrain défini par les institutions européennes et la jurisprudence qui leur donne effet, c'est-à-dire les traités. Mon terrain, c'est les traités qui instituent l'Union européenne et la jurisprudence qui leur donne effet. Et je propose de lire cette jurisprudence et ces traités avec les lunettes ou sous l'angle de trois idéotypes différents et de comparer leurs pouvoirs explicatifs respectifs. Le premier étant celui des laïcités, le deuxième celui des sécularismes. Et le troisième, qui est le plus problématique, c'est celui des démocraties chrétiennes. Alors, comment je développe ces idéotypes? Avec laïcité et sécularisme, c'est plus simple, moi. Puisqu'il y a toute une littérature déjà constituée sur qu'est-ce que ça veut dire la laïcité, surtout en France, un travail de réflexion énorme sur ça. Bien sûr, il y a des tensions internes à cette littérature, mais la méthodologie des idiotypes, Weber le dit très clairement, au début consiste, il y a une partie d'arbitraire dans la façon dont tu construis ton idéotype, mais c'est pas grave ça, parce que l'intérêt heuristique d'un idéotype n'est pas dans sa vérité en tant que catégorie, mais dans ce qu'il permet de révéler dans la réalité. Donc, pour construire l'idéotype de laïcité et de sécularisme, on peut s'appuyer sur une littérature existante, essayant un peu d'en déceler des éléments cohérents, continus de qu'est-ce qu'est la laïcité. Surtout, je prends par point de référence la France pour ce qu'est la laïcité et les États-Unis pour ce qu'est le sécularisme. Pour ce qui concerne la notion de démocratie chrétienne, là il y a tout un travail à faire. Là c'est un travail vraiment de théoricien politique, de reconstruction, parce que c'est un travail qui a beaucoup. Je sais que je parle sous l'autorité d'une des personnes qui ont peut-être le plus écrit sur ça, mais en général, la notion de démocratie chrétienne dans la théorie politique a été beaucoup moins travaillée par rapport à notions comme le libéralisme, la social-démocratie ou la laïcité. Donc là, il y a un premier travail théorique à faire, à reconstituer quelles sont les idées structurantes de cette notion de démocratie chrétienne par rapport à comment il faut structurer les rapports entre politique et religion. Et là, il y a vraiment un réservoir d'idées très intéressantes, assez méconnues. Malgré l'importance énorme qu'a joué la démocratie chrétienne dans l'histoire de la construction européenne, comme on le sait, et en général de chaque pays européen. Donc, sur la base de ce travail théorique préliminaire, on peut lire les traités et la jurisprudence européenne, et c'est là que je rentre dans l'eau, et je passe à vous dire ce que j'ai fait dans mon étude, effectivement. Ça, c'était la partie méthodologique. Donc, en gros, la conclusion à laquelle j'aboutis, la première conclusion à laquelle j'aboutis sur la base du travail, est qu'en fait, les deux idiotypes de laïcité et de sécularisme sont beaucoup moins adéquates pour saisir la spécificité de la structure institutionnelle de l'Union européenne par rapport à cet autre idéotype que je veux reconstituer de démocratie chrétienne. Et la façon dont j'essaie de démontrer cela, c'est à travers une analyse, et c'est de ça que je vais parler dans le reste de cette présentation, de quatre éléments de la structure institutionnelle de l'Union européenne qui, selon moi, ne sont pas compatibles ou choquent ou sont en tension avec la façon dont on a normalement compris les notions de laïcité et de sécularisme, mais qui, au contraire, consonnent beaucoup mieux avec la façon dont on a... Donc, c'est comprise historiquement elle-même la notion de démocratie chrétienne. Ok, premier élément, le fait que l'Union européenne refuse de se concevoir comme un cadre juridique homogène pour structurer les rapports entre politique et religion, mais au contraire se conçoit comme une forme de mettre ensemble plusieurs espaces juridiques à différents niveaux selon une doctrine de subsidiarité ou de marge d'appréciation. Donc, elle refuse la notion de souveraineté. Elle refuse l'idée que ce soit un espace juridique homogène. Mais il y a plusieurs systèmes de lois entrelacés entre eux. Selon moi, ça c'est incompatible. Ça choque avec la notion de laïcité ou de sécularisme, parce que les notions de laïcité et de sécularisme se sont historiquement développées de pair avec la notion de souveraineté. Pourquoi ? Parce que la notion de souveraineté, c'est ce qui permet de distinguer les politiques du social. C'est par la constitution de l'État moderne, c'est fait par une concentration du pouvoir dans une instance qui permet de distinguer les politiques du social. Et donc, seulement un État souverain peut être laïque. Donc, un État post-souverain, comme l'Union européenne, ne peut pas être laïque. Mais on retrouve dans la tradition de la démocratie chrétienne, dans la façon dont la démocratie s'est passée, tout en pensant de la subsidiarité, justement, qui est précisément une critique de la souveraineté et une façon d'articuler les politiques et les sociales d'une autre façon. C'est l'idée que, en fait, on ne sépare pas, le politique ne se sépare pas du social, le politique émerge du social, est organiquement lié. Donc je montre, comme dans Sturzo, dans Maritain, il y a toute une réflexion, une critique de la souveraineté, une réflexion sur la subsidiarité comme un régime post-souverain, et où il y a une autre articulation du religieux et du politique. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le fait que les traités de l'Union européenne et la jurisprudence qui l'institue reconnaissent explicitement la religion comme source d'inspiration pour le droit. Ça peut-être étonné parce que, surtout dans ce pays, mais aussi dans le mien, il y a eu un grand débat, vous vous rappelez, quand, au moment constituant, sur la question d'inclure ou non une référence aux racines chrétiennes de l'Europe dans le projet de traité constitutionnel. Et tout le monde pense que, puisqu'on n'a pas inclus une référence aux racines chrétiennes, en fait, les laïcs ont gagné, l'Union européenne est laïque, on est sauf. En fait, pas du tout. Si on lit le traité, il me semble que la formule qui a été retenue à la fin va plus loin même qu'une référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Parce que le premier, si vous lisez le traité de Lisbonne, il commence comme ça. Le premier article du traité de Lisbonne commence « S'inspirant de l'héritage culturel, religieux et humaniste qui est le fondement pour tout. » Donc, le premier mot, c'est ce concept d'inspiration de la religion. Pourquoi ce concept, selon moi, va plus loin que l'idée des racines? Parce que les racines, c'est derrière. C'est le passé. On a eu un passé chrétien. Ça va, maintenant, on peut aussi être différent. Mais si on doit s'inspirer de son passé, ce passé est présent. Ça reste. Donc l'idée est que ce concept d'inspiration a une autre temporalité que celui des racines. Est une temporalité tout à fait différente, une conception tout à fait différente de l'idée qui me semble à la base du concept de laïcité ou de séculaire, qui est l'idée de séparation, pas d'inspiration religieuse. Mais ce concept d'inspiration, selon moi, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi là toute une élaboration théorique de ce concept d'inspiration religieuse dans la tradition de la pensée démocrate chrétienne. Le parti de la démocratie chrétienne italienne s'appelait le Partito d'Ispirazione Cristiana, donc la inspiration. Et chez tous les auteurs de la démocratie chrétienne, on retrouve tous cette idée d'inspiration. Chez Maritain, par exemple, le concept d'inspiration chrétienne est clé pour le fondement même de la distinction que tout le monde connaît entre agir en chrétien ou agir en tant que chrétien. C'est-à-dire l'idée que, pour Maritain, le problème que ce concept d'inspiration essaye de résoudre, c'est que le fait que pour un chrétien, le christianisme n'est pas une doctrine politique, c'est une religion, ça vise au salut. Mais comment elle peut devenir doctrine politique? C'est pas qu'on applique les préceptes religieux en politique, on prend inspiration. Ça, c'est agir en tant que chrétien. Je dois faire plus vite.
Okay. Non. On a compris.
Oui. Okay. Donc, le fait que ce même concept d'inspiration, et qu'on ne trouve jamais dans les traités qui instituent l'Union européenne, le concept de séparation. On ne trouve jamais la séparation, on trouve l'inspiration. C'est un concept démocrate chrétien. Troisième point, le fait que l'Union européenne se fonde, et la jurisprudence surtout, sur une conception positive de la liberté religieuse. Non pas seulement comme droit à la non-interférence, que j'ai un droit que l'État n'interfère pas, mais au contraire comme obligation positive, c'est un terme qu'on retrouve dans la jurisprudence, une obligation positive dans l'État, sur l'État, de favoriser et de promouvoir la religion. Donc, dans un cas comme Laozi contre Italie, c'était un cas qui portait sur la question de mettre les crucifixes dans les salles publiques des écoles. La Cour a dit qu'un statut italien qui obligeait dans les salles des écoles publiques à mettre de crucifixes, la religion fait partie de la culture italienne, de l'identité collective italienne, qu'un État démocratique doit préserver pour ne pas devenir un formalisme stérile. Et donc, l'État doit promouvoir cette identité. Il doit. Mais aussi, ça, c'est une autre chose qu'on retrouve, cette conception positive de la liberté religieuse. Dans le fait, ce n'est pas seulement une idée théorique, on la retrouve aussi dans les pratiques institutionnelles de l'Union européenne. Après la présidence Delors, Jacques Delors, président de la Commission, a lancé un projet qui s'appelait Une âme pour l'Europe, qui allait à côté de Maastricht. Maastricht, c'était l'idée, on fait la monnaie commune. Après, il faut aussi donner une âme à l'Europe. Et l'âme, on l'a construit par une institution qui vise à inclure des représentants des institutions religieuses dans le processus de législation. Donc, la Commission européenne tient régulièrement, maintenant c'est devenu une institution, nomme des représentants religieux et tient ce dialogue interculturel. Donc, l'Union européenne cherche une âme et la trouve en nommant des éléments, des représentants de religion et en les incluant dans le processus de législation. Ça, c'est l'idée positive des libertés religieuses. Il faut, c'est pas seulement on respecte, mais on favorise, foster en anglais. Je n'ai pas trouvé une bonne traduction pour ce mot. Dernier élément, et comme ça je vais conclure. L'Union européenne accorde implicitement un statut privilégié à la religion chrétienne par rapport aux autres religions, dont notamment l'islam. Ça, c'est déjà implicite dans le fait que la référence à la religion dans les traités apparaît comme héritage. Si la religion est traitée comme héritage, on donne préférence à celui qui est depuis plus longtemps sur le territoire. Mais surtout, ça se voit dans la jurisprudence des deux cours européennes, la Cour européenne de justice et la Cour européenne des droits de l'homme. Toute la jurisprudence que vous pouvez voir sur ce cas, et j'ai fait l'analyse dans le papier, chaque fois qu'il s'agit de la question de l'admissibilité publique des signes religieux chrétiens, ça va. La Cour adopte une attitude permissive. Là aussi, c'est un cas, le crucifix, ça va. Un cas récent en Angleterre, de personnes de British Airways qui voulaient mettre la croix sur l'uniforme. Ça va, ça se représente, tout ça c'est permis. Mais à chaque fois qu'il s'agit d'exposition de signes musulmans dans la sphère publique, la Cour a toujours adopté une attitude restrictive. Dakhlab de 2005, on n'a pas le droit d'enseigner avec le voile. Refa Partisi de 2003, un parti islamiste représente une menace pour le principe de sécularité. Je vais vite sur cette jurisprudence, je sais que ça c'est un des points les plus difficiles à établir, mais selon moi, il y a une raison pour laquelle il y a cette dissymétrie de traitement des deux religions. Parce que la Cour, comme l'a dit dans Laozi très clairement, part du présupposé que le christianisme fait partie de l'âme de l'Europe, fait partie de l'héritage de l'Europe. Et c'est notre ethos civique. C'est l'idée de la démocratie chrétienne que c'est le levant, c'est le ferment, c'est l'âme de la démocratie. C'est de là que la démocratie vient. Ça, c'est le présupposé. Tandis que l'islam est extérieur à ça. L'islam ne fait pas partie de la culture démocratique européenne. Donc, cette dissymétrie s'explique par un présupposé que la démocratie a besoin d'un ethos, la démocratie a besoin d'un âme. Cette âme est fournie historiquement par le christianisme et donc l'islam est extérieur à cela. Et ça, c'est aussi une autre idée très commune c'est le cœur de l'idée de la démocratie chrétienne, que la démocratie naît du christianisme, que le christianisme est l'âme de la démocratie, c'est le ferment, l'élévant, c'est la métaphore qui revient toujours. Donc je conclue en disant que sur la base d'analyse de faits comme ceci, j'arrive à la conclusion que une catégorie typique de démocratie chrétienne offre un cadre conceptuel plus adéquat pour saisir la façon dont l'Union européenne structure les rapports entre politique et religion par rapport à des catégories comme laïcité et sécularisme. Après, ça ouvre tout un autre volet qui est le volet, si on veut utiliser le mot maudit, normatif ou évaluatif, de voir si, une fois établi que l'Union européenne incarne la démocratie chrétienne mieux que la laïcité, est-ce que ça c'est bien ou mauvais? Ça c'est une autre question que je veux aborder dans mon livre, mais pas ici. Merci.
C'est très persuasif. Et je trouve en particulier, pour revenir à votre question méthodologique, que votre application du principe de subsidiarité à la tradition démocratienne, c'est simplement juste comme ça. Vous avez dû en tracer les généalogies. Donc, c'est un cas dans lequel la connaissance des idées des acteurs permet d'établir des généalogies de décisions et de pratiques concrètes. On est là dans, je pense que, c'est pas non plus absolument inconnu, mais vous le présentez ici avec beaucoup de force, beaucoup de conviction, et c'est une des manières de rendre l'histoire des idées productive, mais là, au sens de, quasiment en un sens causalement explicatif, de décisions de jurisprudence, de formulation de traités, dans les autres cas, la source d'inspiration, il y a un peu moins de connaissances spécialisées. La source d'inspiration, c'est presque votre... Le texte dit ça directement, en quelque sorte. Tandis que le principe de subsidiarité, il faut quand même savoir. le contexte dans lequel il est né, il faut connaître les textes, il faut savoir que ça a eu cette histoire-là pour l'imputer à sa source propre et voir le réseau causal. Et en fait, j'allais vous poser la question exactement celle par laquelle vous avez terminé. Bon, tout ceci est un usage très intéressant, je trouve très productif, de l'histoire des idées. Mais vous ne faites pas de philosophie normative là-dessus. Donc vous ne vous dites pas, et je ne dis pas d'ailleurs, je ne suggère pas que vous deviez en faire, mais au contraire, le projet tel que vous nous l'avez présenté, je serais maintenant plus curieux encore de savoir comment vous pensez passer de ce projet qui me paraît bien calé, bien cadré et plus convaincant à une enquête normative qui sera une toute autre histoire, une toute autre paire de manches. Comment vous allez faire avec ça? Bon, voilà. Alors, remind me of your name. Joel. Alors, Joel, ah mais non, pardon, excusez-moi, vous répondez d'abord.
Ah, je peux.
On fait comme vous voulez, vous êtes
comment je passe à la question normative? Je vais juste répondre à ça.
Oui.
D'abord, surtout, si j'ai bien compris, pour le CNRS, il ne faut surtout pas que je fasse.
Vous avez bien compris.
Mais après, pour comment moi je veux, c'est la distinction entre normatif et évaluatif, pour moi. C'est-à-dire que une fois établies les caractéristiques de ce modèle européen, supposons qu'on soit d'accord qu'il est plus démocrate, chrétien que laïque, on peut se poser la question, par exemple, est-ce que ce modèle est adéquat pour faire face aux défis auxquels est confrontée l'Union européenne aujourd'hui? Et si l'on suppose, que par exemple, un des défis auxquels est confrontée l'Union européenne aujourd'hui est, par exemple, une augmentation du pluralisme dû à l'implantation des grandes communautés islamiques en Europe, on peut se demander si un modèle de démocratie chrétienne est la meilleure façon de répondre aux défis de l'existence de communautés importantes islamiques en Europe. Selon moi, la démocratie chrétienne a été très efficace à résoudre certains problèmes auxquels a été confrontée, surtout à la fin du 19e et au début du 20e siècle, c'est-à-dire l'intégration des catholiques dans la démocratie. Mais est-ce que c'est la démocratie chrétienne, est-ce que ça c'est la bonne façon pour intégrer l'islam en Europe? J'ai des doutes. Mais donc ce serait comme ça que j'aborderais la question. Une fois établies les caractéristiques, il faut savoir quels sont les défis et est-ce que c'est une bonne façon. Ça c'est tout un autre débat par contre. Mais ça ce serait comme... Vous êtes moins convaincu sur ça.
Je suis moins convaincu. Oui, ça devient une... Vous ramenez la question normative à une question de rationalité instrumentale.
Oui.
Voilà. Demandez, vous avez identifié un phénomène et vous vous demandez simplement s'il est instrumentalement efficient compte tenu d'un certain nombre d'objectifs, de survie, de stabilité et des éléments d'environnement. Ça n'est de la philosophie normative que de manière un peu dégradée.
Ok, non, mais vous avez raison. J'ai beaucoup moins réfléchi cette partie, mais...
Bon, c'est très intéressant. Alors, Giulio, d'abord, ensuite... Qui donc? Philippe? Oh là, attendez.
Ça va au fond de demander la parole.
Est-ce que j'établis une liste? Julio, d'abord.
Jerry.
Oui, écoute, ça va. Bon, ensuite c'est Ricky. Philippe? Félix, oui, d'accord. Ensuite, Cynthia?
Plutôt Julie Sada.
Ah oui, voilà. Julie et Philippe, qui est là-bas au fond et qu'on ne va pas oublier.
Non.
Mais non, on ne veut pas t'oublier. Alors. Et qui d'autre encore? Mais je l'ai déjà. Ah, Cynthia après. Non, allez, ça va. J'ai 4 personnes. C'est déjà quelque chose. Alors, Giulio.
Alors, je remercie Carl, les compatriotes. Comme ça, on retrouve un peu les émotions. Et aussi pour la présentation très sincère sur ton destin ici en France. Je vais évoquer après parce que ce sont on concourait avec les pathos de rêve d'écrire la situation du chercheur aujourd'hui qui se trouve parfois, tu peux peut-être la vivre assez bien, peut-être d'autres se trouvent à la vivre dans des conditions très difficiles pour articuler leur problématique existentielle en problème, ou après avoir un poste. Donc, toi, volontairement et de manière ironique propre à notre caractère national, évoquer un peu ce qui pourrait être évoqué si on était allemand avec les pathos de Marseille sur la des chercheurs. Donc, je veux maintenir justement. maintenant, par contre, je veux faire le lien avec ça, parce que la question, entre guillemets, méthodologique est très importante, parce que, après tout, plutôt qu'au-delà du CNRS, ça concerne la problématique, une question qui concerne la décision politique, spirituelle de nous tous. Donc, il faut trouver du moins le lien, peut-être notre journée, notre association doit travailler à cela, entre nos problématiques méthodologiques ou théoriques et la situation humaine ou politique. Et donc, là, sous ces liens-là, parce que après, tu as vraiment développé ta problématique très bien, de manière très solide, je suis vraiment perplexe, par contre. C'est-à-dire que, je dirais comme ça pour commencer, je ne comprends pas, et si je le comprends, j'ai du mal à l'assumer, je pourrais dire les destins de paramètres religieux dans ta perspective. C'est-à-dire, on a presque l'impression qu'ils soient destinés à être, à se dissoudre dans une réflexion où on peut en faire beaucoup de choses. Et alors là, la question du terrain devient paradoxalement vraiment intéressante. Parce qu'il faut se poser la question, est-ce que là, que je puisse poser la question au terrain, c'est vraiment ridicule, moi. Mais là, ça devient, tu m'as montré l'intérêt. Pourquoi ? Parce que, quand on choisit les terrains, je pense qu'on tire des conclusions différentes. Si on prend la jurisprudence, déjà, c'est poser la question, est-ce que l'Europe est une démocratie chrétienne ? En analysant la jurisprudence, déjà, ça pose déjà des problèmes. On pourrait dire, par exemple, les décisions ou les choses qui montrent si l'Europe aujourd'hui en démocratie chrétienne sont autres. Les décisions collectives, un esprit général, les paroles publiques. Déjà, la jurisprudence, les arrêts de la jurisprudence, ça pose beaucoup de problèmes. Ensuite, je dois dire que tu as pris des décisions très particulières. La teinture culturelle du christianisme en Europe. Est-ce qu'on garde ou pas cette identité? Et ça, je suis sûr qu'on peut trouver beaucoup de choses dans l'Union européenne qui montrent qu'après tout, il y a une référence légitime. Si on allait voir les questions très profondes qui peuvent vraiment diviser, comme cela s'est produit les esprits en Europe, la jurisprudence européenne n'est pas du tout chrétienne. Qu'il s'agisse de l'euthanasie ou d'autres choses, c'est presque le contraire. Ouais. Ensuite, tu as évoqué l'aspect, par exemple, je vois toutes sortes de choses pour exprimer la complexité. Tu as évoqué le fait que les traités de Lisbonne, qui ont un extraordinaire compromis pour écarter la chose, évoquent l'inspiration de la religion. Tu as même évoqué le pluriel, dire qu'on nomme les religions, on n'a pas évoqué le christianisme.
Héritage religieux.
Héritage religieux, oui. C'est quand même, je veux dire, ce sont des nuances. Mais alors là, le terrain devient extraordinairement intéressant parce qu'on peut se poser la question, comment on juge la nature d'un collectif? Où se trouvent les noms du collectif? Notre débat de l'autre jour avec Annie. Et alors là, effectivement, on peut se dire que la problématique méthodologique nous pose devant un problème qui est beaucoup plus vaste. Et peut-être, je ne sais pas, le destin du CNRS, mais pour le destin et la définition de l'Europe, effectivement, notre problématique est très intéressante.
Je vais en faire peut-être toutes les questions.
On fait toutes les questions, sinon on va aller jusqu'à 2 heures.
Okay.
Allez, Félix.
Oui, merci Carlo. J'ai une question sur les arrêts justement de la Cour européenne des droits de l'homme, et sur notamment les arrêts liés au rôle que jouent les États dans la définition de ce que c'est le religieux. On avait hier un débat avec Cécile Laborde sur la question, mais ça permet de prolonger aujourd'hui. Si je peux en parler. Est-ce que, je pense à l'arrêt de Kinaki, c'était un arrêt sur. Oui, en début des années 2000. Sur l'appréciation de le prosélytisme de témoins de Jéhovah, en l'occurrence en Grèce, qui a été laissé à l'appréciation de l'État grec par la Cour. Et je me demandais si, dans le cas français, par exemple, le conseil du culte de musulmans, est-ce que ce serait un cas aussi où c'est laissé à l'appréciation de l'État d'organiser ou de ne pas organiser les religions sur son territoire? Et si justement, ça, cette attitude de la Cour qui s'est répétée, hein, je crois, est-ce que ça montre qu'il y a une certaine force finalement de la laïcité, entre guillemets, ou une combinaison de la laïcité, c'est-à-dire la capacité de pouvoir d'État à décider de matière religieuse, et en même temps, effectivement, de la subsidiarité, puisqu'il s'agit de dire, en gros, c'est les États qui sont les mieux à même, parce qu'ils sont proches, c'est eux qui ont une culture ou une expérience, donc ils sont les mieux à même d'apprécier. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est un cas un peu mixte, ça, je vous en parlais, et j'aimerais d'avoir tout.
C'est une question qui prolonge un peu ce que vous venez de dire. Bon, j'ai trouvé ça très intéressant, cette confrontation entre les paradigmes, mais justement, avec la première question que je voudrais poser, c'est sur le paradigme de la laïcité que tu opposes à celui de la démocratie chrétienne. Mais au fond, je pense aussi à tous ces travaux, ce que vous mentionnez de Cécile Laborde, qui montre par exemple qu'en France, il y a une catho-laïcité, c'est-à-dire qu'il y a de la laïcité de celui de la démocratie chrétienne. Alors, il faudrait peut-être évidemment un exposé beaucoup plus long, mais est-ce qu'on peut bien identifier deux paradigmes différents ou s'il n'y a pas une tendance à une fusion entre les paradigmes? C'est ma première question. Et la deuxième question tend sur la question de souveraineté, c'est-à-dire que quand tu dis qu'il y a un principe de souveraineté, de subsidiarité de la part de l'Union européenne qui fait que l'Union européenne ne fonctionne pas à partir du principe de souveraineté, sauf qu'en droit international, le principe de subsidiarité, c'est un principe de souveraineté, c'est-à-dire qu'il affirme le pluralisme des souverainetés. C'est-à-dire que, qu'on laisse d'abord aux souverainetés la possibilité de soit de produire la loi, soit de juger, etc. Et du coup, ça fonctionne très bien avec un principe de laïcité, par exemple. Alors, quelle que soit la manière dont on la conçoit, comme neutralité ou comme euro. Voilà.
Merci beaucoup.
Et on a fini.
Oui, moi, je voulais faire deux remarques que disait Jojo à l'instant. La première, c'est concernant ce texte du traité de Lisbonne, vous l'avez cité, ce premier article. Il est question d'héritage dans les philosophiques religieux et humanistes. C'est quelque chose d'assez large qui n'a rien de démocrate chrétien. Je crois que moi, je ne suis pas spécialement catholique, comme on le sait, mais enfin, pas comme certains le savent. Mais par ailleurs, ce qui est assez connu, me semble-t-il, dans le langage européen, c'est humaniste, ça se réfère aux Lumières. Et ça se réfère aux Lumières dans leur dimension non chrétienne, ou éventuellement chrétienne. Par exemple, toutes les loges catholiques sont humanistes, par définition. Et les théoriciens de la laïcité, d'ailleurs, se présentent comme des théoriciens de l'humanisme. Donc, là, dans le texte que vous citez, le christianisme apparaît, enfin, le christianisme n'est pas nommé, et il apparaît dans une série dans laquelle il est encadré par la philosophie païenne d'un côté et par l'humanisme post-chrétien de l'autre. Alors, sa forme de nuisance me paraît assez limitée dans ces conditions-là. La deuxième remarque, elle est historique. Moi, je veux bien qu'il y ait un héritage, en cette fois-ci, démocrate chrétien dans le fonctionnement de l'Union européenne. C'est pas douteux, si vous voulez, dans le projet initial de l'Union européenne, c'est un projet démocrate chrétien, mais dont il ne reste quand même pas grand-chose. Donc, quelqu'un a signalé que la jurisprudence des cours européennes, en plus, il y a des cours européennes, la jurisprudence des cours européennes, elle n'est pas du tout chrétienne sur le fond, sur des questions de moralité, vous lisez l'article, le texte de Louis Saint-Père dans le commentaire, la question d'analyse, toutes les avancées sur le genre, l'homosexualité, etc. Si la démocratie chrétienne, elle a trop sur la chérie, elle dit ça. Si vous prenez le projet politique, il n'y a pas que les juridictions, le projet politique, la patrie de la démocratie chrétienne, c'est-à-dire l'Italie, et ce qui reste de la démocratie chrétienne en Italie, est facilement favorable à l'entrée de la Turquie en Union européenne. Ce n'est pas vraiment le projet initial de la démocratie chrétienne non plus, si vous voulez. Et pour ceux qui ont beaucoup trop jeunes pour ça, mais pour ceux qui ont connu l'Italie même des années 70, la démocratie chrétienne, c'était le parti qui soutenait le pape quand il ne voulait pas qu'on légalise le divorce. Ça, c'était la démocratie chrétienne, si vous voulez. En France, c'était évidemment plus modéré, mais enfin, je ne suis pas sûr, si vous voulez, que ça. Enfin, il faudrait identifier, si vous voulez, quel est le degré d'efficacité de votre modèle démocratique chrétien aujourd'hui. J'avoue, je ne suis pas sûr qu'il existe. Et y compris, d'ailleurs, dans les décisions de justice que vous citez, tout ce que font les juridictions, c'est constater que les camps politiques sont liés à des sociétés qui ont une histoire, dans laquelle le christianisme a un certain rôle. Si elle ne le faisait pas, ça serait quand même très singulier. L'Union européenne serait le seul corps politique fortement historique aujourd'hui qui n'ait aucun rapport avec son passé. C'est un peu curieux. Et d'ailleurs, pour préciser, d'ailleurs, quand on a affaire à une nation qui est catholaïque, c'est une invention au passage, c'est Pierre Morin qui a inventé cette formule. Je trouve excellente, et d'ailleurs, moi, je m'en connais tout à fait là-dedans. Plus d'ailleurs que le gâteau, mais je voulais les pensons par exemple que les méditations françaises sur le voile islamique, qui étaient considérées comme, par certains comme hostiles à la liberté religieuse, ont été acceptées par sagement par les Bourbons, ça fait partie du camp politique français. Donc, je crois qu'il y a un rapport, si vous voulez, des juridictions à l'histoire, mais qui n'est pas un rapport démocrate chrétien, qui est un rapport à l'histoire, tout simplement.
Très bien. Marie-Hélène, vous voulez. Parce qu'il faut ensuite. Cynthia aussi.
Très rapidement.
Oui, alors deux prises de parole encore, puis on retourne la parole à Carlo. Cynthia.
J'invite tout simplement Carlo à discuter avec Dani Trump, que nous avons entendu la semaine dernière par rapport à notre collègue Manon, qui nous parlait des juifs dans une configuration post-étatique et surtout de la sortie des juifs comme paradigme, peut-être comme principe explicatif du destin et des nations européennes et de l'Europe. J'ai l'impression que de ton côté, ce que tu fais, c'est que tu intègres non la sortie d'une communauté, mais l'entrée d'une communauté. Et j'ai vu que la question des juifs était complètement absente de ton exposé. Donc voilà, c'était...
Et Marie-Hélène
Oui, simplement. Alors, j'ai trouvé ton exposé très, très riche et très, très bien construit. Simplement sur la méthode, tu parlais des lunettes et de la couleur des lunettes. Je me demande si le fait d'intégrer la démocratie chrétienne commun de ton idéotype, c'est pas déjà donner une couleur à ces lunettes. Je me demande si vous ne pas simplement garder l'idée de laïcité et éventuellement du sécularisme, et à partir, parce que tu questionnes clairement la laïcité de l'Union européenne. Donc ça, c'est la vraie question de recherche. Et à partir de la question de la laïcité, tu peux regarder dans quelle mesure l'Europe, enfin quel est le rapport du politique à la religion qui est promue par l'Europe, par l'Union européenne aujourd'hui, à travers éventuellement la jurisprudence des cours. Et effectivement, te rendre compte qu'il y a un problème avec ce principe de subsidiarité qui n'a effectivement rien de laïque, et continuer sur la laïcité avec éventuellement comme conclusion le fait que l'orientation peut éventuellement être de démocratie chrétienne, mais pas forcément faire une loupe dès le départ, je crois. Et je crois que c'était tout. Non, mais après, je trouve ça intéressant de pouvoir, si tu veux aller vers la démocratie chrétienne, te demander. Dans quelle mesure l'Église n'aurait pas plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas de solidarité non plus, et à ce qu'il y ait plus une grande communauté, enfin, c'est une communauté de gens plus religieuse en fait, plus politique.
Merci. Vous avez la parole pour.
Je vais essayer de. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais essayer de répondre à la plupart des questions rapidement. Sur la première question, sur le choix du terrain. Que la jurisprudence ne serait pas les bonnes, la jurisprudence et les traités ne seraient pas les bonnes terrains pour étudier le rapport entre religion et politique en Europe. Je suis d'accord à moitié sur le fait que ce n'est pas le seul terrain. Je suis d'accord que si on voulait avoir une étude exhaustive de la façon dont l'Union européenne structure le rapport entre politique et religion, il faudrait étudier plusieurs autres terrains. Et notamment il faudrait faire une sociologie et tout ça. Moi, par contre, je ne suis pas d'accord que là, dans ce terrain, se joue au moins une partie de la façon dont l'Union européenne structure le rapport entre politique et religion. La loi n'est pas tout, bien sûr, mais elle joue un rôle. Après, il faut faire la sociologie de la loi, sans doute. Mais en tant que norme, elle a une... Sans vouloir penser que la loi détermine de façon exhaustive tous ces rapports, je trouve que c'est légitime au moins de se vouloir demander comment la loi structure ces rapports. Par rapport, ça revient à ta deuxième question et aussi à la deuxième, c'est... le cas des coquinakis, il y a des cas qui semblent aller dans de l'autre direction. Mais... comme tu l'as souligné très bien, le principe par lequel toutes ces décisions, Kokkinakis, tu l'as souligné, sont prises, c'est toujours la doctrine de la marge de l'appréciation. C'est toujours cette doctrine que les États peuvent faire. Mais ce qui ne veut pas dire... La doctrine de la marge de l'appréciation, selon moi, va dans ma direction. C'est une doctrine anti-souveraine. C'est une doctrine qui dit que les États ont une marge. Donc les États ne sont pas souverains. L'Union européenne, selon moi, ne peut pas être comprise ni comme une souveraineté supra-étatique, ni comme une collection de souveraineté étatique. C'est précisément un cadre post-souverain. C'est la multi-level governance. C'est, ça mine les fondements de l'idée de souveraineté, précisément parce que ça divise les pouvoirs sur différents niveaux. Donc l'État a marge. Donc, selon moi, le fait que dans Kokkinakis, ils ont décidé que en Grèce, les témoins de Jéhovah avaient le droit de prosélyter, c'est bien. Mais ils ont fait ça par dire, dans cette partie-là de notre territoire européen, il y a une autre loi qui est très différente de celle qui s'applique ailleurs. Et c'est cette multi-level governance qui implique des lois différentes qui changent selon les contextes, qui est post-souverain, selon moi, et qui, donc, selon moi, ne peut pas être laïque. Alors, sur la question de la catholaïcité et son rapport, est-ce qu'il y a une différence entre la laïcité et la démocratie chrétienne? Je ne veux nier jamais qu'il y a beaucoup d'interprétations du concept de laïcité et beaucoup d'interprétations du concept de démocratie chrétienne qui sont des terrains de conflit elles-mêmes. Ma méthodologie m'impose de voir un peu coaguler une idée de ce qu'est la laïcité et une idée de ce qu'est la démocratie chrétienne. Ce qui se justifie si j'arrive avec ces lunettes à découvrir des choses intéressantes. Ça, la proof is in the pudding. Mais, donc, je suis il y a une interprétation démocrate chrétienne de la laïcité aussi. Les démocrates chrétiens ont leur interprétation de ce qu'est la laïcité. Donc, tout ça, c'est un terrain mouvant. Il n'y a pas une essence de la laïcité. Mon idéal type de la laïcité, c'est distant de mon idéal type de la démocratie chrétienne par plusieurs caractéristiques. Une, comme je dis, la laïcité, selon moi, doit s'appuyer sur une idée de séparation entre État et Église. Tandis que le concept de démocratie chrétienne s'appuie sur une idée d'inspiration qui est une façon compliquée de les relier. Ça, c'est une différence. Une autre, la laïcité, selon moi, doit s'appuyer sur une idée de neutralité entre les religions. Tandis que, selon moi, la démocratie chrétienne, comme le mot le dit lui-même, donne un statut privilégié au christianisme. Donc, c'est comme ça que je fais la différence. Je dois trancher. C'est ma méthodologie qui me l'impose. Elle a des limites, mais peut-être aussi elle permet de dévoiler des choses. La souveraineté, selon moi, comme je viens de dire, ne s'explique. La subsidiarité ne signifie pas que les États sont souverains dans le droit international. Il y a une façon de comprendre le droit international comme Kelsen, comme souverain ou comme collection d'États souverains qui font des traités. Ça, ce n'est pas l'Union européenne, selon moi. L'Union européenne, la conception de la subsidiarité appropriée par l'Union européenne, qui est dans les traités, est vraiment post-souveraine. Et c'est en cela qu'elle rejoigne la tradition de pensée démocrate chrétienne, qui a beaucoup élaboré ça comme critique de la souveraineté. C'est vraiment une différente idée. Ce n'est pas Kelsen, ce n'est pas le droit international comme ça. C'est vraiment une idée où le droit n'est pas distant de la société, ça émerge organiquement de la société, donc l'État ne se distingue pas de la société. Ça, c'est la subsidiarité, au moins, et ça, c'est très près de la gouvernance, selon moi. Vous avez repris la citation où j'ai fait ça, c'est un autre point que je n'ai pas mentionné dans ma présentation, mais selon moi, c'est très intéressant que le premier article du traité, du préambule du traité de Lisbonne, mentionne aussi l'humanisme et met sur le même pied la philosophie et la religion. Alors, ça pourrait sembler dire ce n'est pas un statut privilégié pour la religion, mais selon moi, ça, c'est une autre manœuvre caractéristique de toute la pensée démocrate chrétienne. D'établir une équation entre laïcité et de dire que le sécularisme est une religion, que l'humanisme est une religion. De dire que la laïcité, c'est toujours pas comprise comme religion, c'est comprise comme façon de réguler les religions. Mais les penseurs chrétiens.
Pardonnez-moi, mais le texte que vous dites, c'est religieux et humaniste.
Oui, donc pour moi.
C'est pas religieux et religieux humaniste. C'est pas chrétien.
Non, exactement, mais ils établissent une équivalence entre humanisme et religion. Héritage humaniste et religieux. Héritage philosophique. Non, culturel. Ils font une équation entre culture, religion et humanisme ou philosophique, on ne sait pas bien ce que c'est l'humanisme, parce qu'il y a aussi toute une.
C'est très clair, c'est la philosophie antique, le christianisme et les lumières.
Peut-être, selon vous. Mais l'important pour moi, c'est que. L'important pour moi, c'est que l'équation entre ces trois.
Surtout à son premier, pour les gens qui pensent que c'est différent. Il faut faire un peu aussi d'interprétation plate de sociologue, quoi. On n'était pas d'accord et on a mis les trois pour contenter tout le monde. Oui,
mais alors ça me ramène à une autre question qui a été posée. Ok, c'est vrai, si vous voulez faire la sociologie de ce texte, c'est sûr qu'il est. Mais c'est aussi un texte juridique qui a une valeur en tant que telle, qui est appliquée. Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc, moi, je ne nie pas qu'il y ait une dimension sociologique derrière ou qu'il y ait une façon de l'interpréter qui a des bases sociales. Mais selon moi, le droit, pour concevoir ce qu'est le droit, il faut le séparer de la sociologie. Il a une efficacité en tant que telle. Et les mots qu'on utilise ont un poids qui s'émancipe de ses origines sociales.
C'est incontestable, mais les trois termes, d'avoir abouti à ces trois termes, il ne faut pas non plus surinterpréter leur sens. Maintenant, ils s'appliquent comme données de droit. Ça va de soi. Mais le choix ensuite de ces trois termes, on sait bien que c'était une façon de tourner les Français à cause de la laïcité, en fait.
Donc,
ces trois problèmes sur lesquels tout le monde était en désaccord. Donc, ces trois. Comme ça couvrait à peu près tout.
Mais ça, c'est peut-être la raison. Ça, c'est peut-être la raison pour laquelle on a abouti à cela.
Oui.
La coïncidence, c'est que si on interprète le texte auquel on a abouti, selon moi, c'est un texte qui se rapproche beaucoup plus de la tradition. C'est une coïncidence, peut-être. J'en sais rien. Je n'entre pas dans l'explication causale de ce texte. Je dis, ce à quoi on est abouti se rapproche beaucoup plus d'une tradition intellectuelle démocrate chrétienne que d'une tradition laïque. Et c'est là, je réponds aussi à la deuxième question, quel est le degré d'efficacité de, vous avez dit, de ce type. Pour moi, ça, la réponse est comparative. Plus que la laïcité. Si vous voulez penser à la laïcité, vous ne la trouverez pas dans les traités de l'Union Européenne ou dans la jurisprudence. Vous trouverez quelque chose qui se rapproche. Je ne veux pas dire qu'elle incarne de façon parfaite la tradition de la démocratie chrétienne. Je dis que si on fait une comparaison, on trouve plus de la démocratie chrétienne là-dedans que de la laïcité. Juste pour finir, j'ai encore le temps.
Oui, une dernière chose.
Alors, je vais faire les juifs. Non, je vais répondre à la question sur les juifs. Les juifs ont un statut très particulier, très intéressant, parce que c'est différent par rapport à l'islam. Parce que la tradition démocrate chrétienne toujours intègre le judaïsme, ça fait partie du christianisme, c'est la pensée chrétienne. Donc, ils ont un statut différent, très différent que l'islam. Selon moi, je vais terminer avec ça, c'est beaucoup mieux aujourd'hui en Europe d'être juif que d'être musulman. Parce que toute cette jurisprudence, c'est les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Donc, dans l'évolution, le judaïsme est intégré, donc ça va. Tandis que être islamiste, c'est perçu comme extérieur à la tradition judéo-chrétienne. Donc, c'est pour ça que le judaïsme rentre plus dans cette...
Bon, merci.